Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bien pour cette nouvelle chronique d'Antidote, je vais vous parler aujourd'hui de démocratie. Et je vais vous en parler à travers deux ouvrages d'un même auteur. Elle s'appelle Joëlle Zask, elle est philosophe et elle enseigne à l'université d'Aix-Marseille. Alors en 2017, Joëlle Zask, elle a publié un livre qui a pour titre « Quand la place devient publique ». Alors elle est partie pour ce livre de ce qu'on a appelé le mouvement des places. Vous devez vous en souvenir, c'est un mouvement dans lequel on a agrégé en fait des mouvements très divers qui ont fait parler d'eux durant la dernière décennie, au moment des révolutions arabes, en Turquie, aux États-Unis, en Espagne ou encore en France au moment des Nuits debout. Et en fait, ces mouvements très divers ont en commun d'avoir trouvé avec les places publiques un terrain pour l'innovation politique et l'expérience démocratique. Et également d'avoir revendiqué la prise en main par les populations d'espaces publics dont elles se sentent trop souvent exclues. Alors à partir de ce phénomène, Joëlle Zask s'interroge sur ce qu'est en réalité la place publique et comment et pour qui elle a été conçue. Elle explique que dans l'histoire, le plus grand nombre de places publiques, notamment dans les villes importantes, ont été conçues par des rois, des empereurs ou même des chefs fascistes, et qu'elles sont des dispositifs puissants de contrôle et de surveillance des populations. Aussi, leur appropriation par des mouvements qui se veulent démocratiques et même bien souvent horizontaux, porteurs d'une démocratie directe, n'est pas si évidente que ça. Elle interroge aussi la capacité des individus à s'autogouverner et à utiliser les places publiques comme espace de revendication d'idéaux. En effet, si la place publique est un lieu de rencontre et de convivialité, elle est aussi un lieu de confrontation, d'altérité. Mais en fait, c'est le dernier chapitre qui a particulièrement attiré mon attention, le dernier chapitre de cet ouvrage. Il y est question de cette étrangeté qui est que tous ces mouvements ont eu besoin, à un moment donné, pour nommer leur action et le lieu de leur action, de parler de village. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on parlait de village aussi bien dans toutes les grandes villes. En fait, l'idée, c'était pour eux de recréer des villages. Et ils ont vraiment utilisé ce terme. Alors, on peut à juste titre se demander pourquoi ce terme de village a été repris. Bon, on est d'accord que c'est une métaphore et même une idéalisation. En fait, cela vient que dans l'esprit des participants, le village... Et encore, alors souvent avec des imaginaires anciens, le village et la place du village aussi sont le lieu par excellence de la démocratie directe, de l'assemblée. Un lieu où l'on peut mener des expériences spécifiquement démocratiques, pas uniquement contrôler le pouvoir et réagir après coup, mais s'organiser pour être ensemble et partager une expérience. Bref, le lieu de la possibilité d'une communauté autogouvernée. C'est ainsi, en tous les cas, qu'ils présentaient leur village urbain. On va les appeler comme ça. Or, le village, c'est le monde rural. C'est la campagne, c'est le monde paysan. Et on sait que l'idée est largement répandue que la démocratie, que ce soit celle de la Grèce antique ou celle inventée au siècle des Lumières, est née en ville ou dans la cité. En tout cas, dans un milieu urbain, citadin. Et qu'au contraire, la campagne est associée à des valeurs négatives, comme le conservatisme, l'archaïsme ou l'inculture. C'est donc assez incongru de parler de démocratie pour parler de village. Et c'est là qu'il faut lire un autre ouvrage de Joëlle Zask. Cet ouvrage, il est sorti en 2015, il s'appelle « La démocratie au champ ». Parce que dans cet ouvrage, elle prend justement le contre-pied de cette idée préconçue et explique en quoi les cultures paysannes peuvent favoriser l'essor de valeurs démocratiques et la formation de la citoyenneté. Alors c'est très intéressant, elle donne beaucoup d'exemples, elle met en évidence plusieurs choses. D'abord, elle met en évidence le rôle joué par la culture de la terre dans la réalisation de l'individu. Et la réalisation de l'individu, c'est une base indispensable à la naissance d'un esprit démocratique. Et puis, elle montre aussi comment les activités agricoles favorisent le développement de certaines formes de sociabilité qui s'avèrent essentielles à l'esprit démocratique. Elle insiste par exemple sur des modes de fonctionnement que l'on retrouve à peu près dans toutes les cultures et à toutes les époques. C'est les terres communes, les jardins communs partagés, la gestion commune des systèmes d'irrigation et de garde de troupeaux. Elle explique que ces modes de fonctionnement nécessitent de mettre en place des organisations sociales dans lesquelles la participation de tous est requise. Et qu'elle crée ainsi des habitudes, non seulement de travail en commun, mais aussi de décisions communes, nécessitant des processus d'assemblée et de délibération. Il y a un aspect qui lui semble particulièrement porteur sur le plan démocratique, c'est le système du terrain commun divisé en lots individuels. Un modèle que l'on trouve notamment, qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans les jardins partagés. En fait, il est intéressant parce qu'il fait le lien entre l'individu et la communauté. Il permet à la fois de développer son individualité, de conduire une expérience de A à Z, mais aussi de mutualiser des ressources, des outils, du travail, d'échanger des connaissances, etc. Et tous ces éléments sont constitutifs d'une culture démocratique. Elle explique par exemple que dans un jardin partagé, grâce à la parcelle individuelle, le cultivateur est en position de participer au gouvernement commun. Il participe aux assemblées plénières, répartit les tâches communes et parfois même nomme un représentant ou accepte une fonction de représentation. Il peut également échanger des informations, des plans, etc. On voit d'ailleurs que là, Joël Zask nomme aussi bien les formes de démocratie directe que de démocratie représentative. Et ces formes d'agriculture développent chez l'individu le sentiment d'appartenir à une communauté, mais aussi elles lui permettent de prendre part à la formation de celle-ci. Alors finalement, Joëlle Zask, elle est persuadée que la vie paysanne, la vie rurale, est compatible avec l'existence d'une conscience politique. Et d'ailleurs, l'histoire montre, par exemple, que les diverses sociétés agraires ont développé les premiers modèles d'autogouvernement. Et que les sociétés paysannes ont bien longtemps porté une critique du modèle de la propriété privée. Le travail des champs apparaît donc comme une activité politique authentique. Alors, il est temps maintenant de faire le lien entre ces deux ouvrages. Si j'ai voulu vous parler de ces deux ouvrages de la même chronique, c'est qu'il me semble que, partant d'approches très différentes, la campagne et les places publiques, ils convergent vers l'idée que la démocratie n'est pas purement urbaine, puisqu'elle peut tout aussi bien se développer, non seulement au champ, mais aussi sur les places des villages. Que les trois ingrédients de cette démocratie, que sont la communauté, la politique au quotidien et l'autogouvernement, peuvent être présents aussi bien à la campagne qu'en ville. Je vais revenir sur ces trois éléments. La communauté, qui est nécessaire à la démocratie, elle n'est pas basée sur la classe, ni l'âge, ni autre ressemblance ou autre affinité. Elle est basée sur le fait de vivre dans un même lieu, y compris dans l'altérité et la différence. Mais dans la ville moderne, la taille, l'organisation des grandes villes rendent difficile cette mixité et cette rencontre d'altérité. On sait d'ailleurs qu'historiquement, les grandes villes, qui n'étaient pas encore les métropoles d'aujourd'hui, s'étaient organisées en quartiers, avec une place dans chaque quartier. Mais aujourd'hui, dans ces villes où bien souvent les quartiers ont été remplacés par du zonage, avec des zones de bureaux, des zones de commerce, des zones d'habitat populaire, des zones d'habitat aisé, etc., la mixité sociale est compromise. Et du coup, les villes sont à la recherche d'autres modes d'organisation et se tournent vers le village. Et plus encore, vers la place du village. Parce que former communauté, ça nécessite un lieu, un espace aménagé, conçu, organisé pour cela. Ainsi, la place du village, recréée, réinventée dans les centres urbains, est bien la condition pour que la place devienne vraiment publique. Une deuxième condition dont parle Joël Zask pour la démocratie, c'est la politique du quotidien. En fait, c'est la participation des citoyens au gouvernement de leurs affaires quotidiennes. On a vu très bien que celle-ci se développe particulièrement dans les cultures paysannes. Alors, il faut quand même dire que dans le développement de l'agriculture moderne, ces pratiques ont en grande partie disparu dans l'agriculture productiviste, parce qu'elle a conduit à la déqualification du paysan et de ses connaissances, mais on peut voir ressurgir des formes de politique du quotidien dans les marges de l'agriculture conventionnelle, dans l'agroécologie par exemple ou autre, qui cherche à réhabiliter les savoirs construits par des paysans. Cette politique du quotidien, elle a également été très présente dans les villes, les bourgs, les villages, et ce depuis leur création. l'urbain, c'était le lieu par excellence du citoyen, c'est-à-dire de celui qui s'intéresse aux affaires de la cité, qui participe au gouvernement de cette cité, qui passe du particulier au plus général, qui considère les affaires quotidiennes non pas comme uniquement individuelles, mais bien comme collectives. Et dans ce cadre, les places ont joué à travers l'histoire et continuent de jouer un rôle important dans la mesure où elles sont des lieux de rencontre, d'échange et d'assemblée. Mais il faut dire une chose, que cette politique du quotidien s'est peu à peu institutionnalisée, bureaucratisée, et la délégation, avec notamment le développement de la notion de compétence et d'expertise, s'est généralisée jusqu'à déposséder les habitants des villes de leur autonomie dans leurs gestes les plus quotidiens. Autonomie que l'on peut peut-être retrouver dans des espaces moins organisés, moins institutionnalisés et aussi moins privatisés, comme dans certaines campagnes ou dans certains villages. Enfin, la troisième condition de la démocratie, c'est la conséquence des deux premières. C'est la possibilité d'un autogouvernement, et l'autogouvernement est basé sur l'émancipation, c'est-à-dire sur la prise en main collective de leur existence par les habitants. Alors, pour conclure cette chronique, je voudrais dire que lorsqu'on veut réfléchir aujourd'hui à l'amélioration, à l'approfondissement de notre démocratie, à une démocratie plus démocratique, on pourrait dire, il ne sert à rien d'opposer la ville à la campagne. Il est au contraire particulièrement enrichissant d'aller chercher des pratiques, des expériences, du vécu dans tous les milieux. Car les habitants, à condition qu'on leur en laisse la liberté, ont des capacités d'imagination et de création de formes de démocratie concrètes dont on aurait tort de ne pas s'inspirer. Finalement, être attentif à ce que les cultures paysannes et villageoises ont amené à la démocratie dans l'histoire, mais aussi à ce qui s'y passe dans certains interstices aujourd'hui, peut nous aider à réfléchir à la mise en place de modes démocratiques plus directs, participatifs, en un mot, plus démocratiques. Voilà, ces quelques petites réflexions que je voulais vous livrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne suite et surtout une bonne réflexion. Et à très bientôt.